Et voilà, comme convenu, nous sommes en direct avec le docteur Atman Lorabi, psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique pour parler donc du mental breakdown. Docteur Atman Lorabi, bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour Karima, bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Ah, tout le plaisir est pour moi, docteur. Alors avant de rentrer peut-être plus dans le détail, et vu que ce terme est utilisé un petit peu n'importe comment ces derniers temps, un mental breakdown, c'est quoi au juste ?
Alors, je vous avoue que déjà en essayant de traduire en français cette notion de mental breakdown, le breakdown c'est vraiment une notion que j'ai beaucoup de mal à traduire, mais je vous propose la définition suivante, c'est une panne due à une surexploitation ou une mauvaise exploitation. Mmh. Et donc à ce moment-là, bon, ça nous renvoie à la notion donc d'état psychique et mental où justement on a du mal à fonctionner, ça c'est une dimension très importante, c'est-à-dire qu'il y a un impact réel et mesurable dans un des domaines de la vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie personnelle, etc., la vie sociale, et aussi il y a la notion de détresse intense, hein, c'est-à-dire que c'est un sentiment, voilà, pendant ces fameux nervous ou mental breakdowns, il y a une sensation de détresse psychologique qui peut être extrêmement intense et qui peut être pourvoyeuse quelquefois d'idées noires, voire d'idées suicidaires. C'est un peu ça, la définition du mental breakdown. Alors, il faut rappeler qu'on ne parle pas d'un diagnostic médical. Ceci est une notion plutôt, on va dire, dans le langage familier ou dans le langage de tous les jours, pour désigner voilà, quand quelqu'un se retrouve dans cette situation. Alors justement, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui est pourvoyeur de ces mental breakdowns ? Alors il y a des choses très importantes qu'il convient de rappeler. La première des choses, quand on parle de santé mentale, hein, la santé mentale est le reflet de l'activité quand même cérébrale, et le cerveau est un organe, je tiens à le rappeler, et c'est un organe qui a quoi comme fonction, hormis la régulation des choses automatiques dans le bon fonctionnement du corps humain, c'est un organe aussi qui nous permet d'entrer en relation avec le monde qui nous entoure. Quand je dis le monde, c'est les deux sens, c'est à la fois l'environnement, il fait froid, il fait chaud, il fait jour, il fait nuit, etc. Mais aussi ben, les interactions sociales, étant donné qu'on vit en société. Donc, cette relation au monde peut être source de multiples facteurs stresseurs. Alors là aussi, j'insiste sur ce que j'appelle stress, ce qu'on appelle en médecine stress, parce que c'est souvent dans le langage familier, le stress est plutôt relié à la vie professionnelle. Hein, quand quelqu'un lui dit « est-ce que tu es stressé en ce moment ?» Bon, s'il n'identifie pas de problème au niveau professionnel, il va dire « non, pas tellement ». Alors qu'en fait, non, c'est pas ça la définition du stress. Le stress, c'est les réactions physiologiques du corps et du mental face à toutes les contraintes, n'importe quelle contrainte. Mm-hmm. C'est-à-dire, je me réveille 5 minutes plus tard que prévu, c'est un stress. Mm-hmm. Je dors un peu moins bien que d'habitude, c'est un stress. Mm-hmm. Je n'ai pas mon repas à l'heure, c'est un stress, et ainsi de suite. Donc, ces stresseurs, quand ils sont, ce sont des stresseurs, je dirais, simples, entre guillemets, mais en nombre assez élevé et qui vont persister pendant une longue durée, ça peut aboutir à un mental breakdown. Tout comme, il convient de rappeler qu'il y a des situations aiguës, particulièrement stressantes, qui vont occasionner des changements dans la vie, je parle d'un deuil, je parle d'un divorce, je parle d'une perte d'emploi, enfin ce genre d'événements, qui peuvent rapidement conduire justement à cette situation de mental breakdown, de faillite mentale, donc où je disais qu'il va y avoir obligatoirement et de la détresse psychologique donc un impact négatif au niveau fonctionnel.
Et docteur Atman Lorabi, est-ce qu'il y a des petits signes comme ça qui viennent avant le mental breakdown auxquels on pourrait faire attention, annonciateur en quelque sorte de l'arrivée d'un mental breakdown ?
Absolument. Il y a des petits symptômes avant-coureurs qui vont soit s'amender progressivement avec la résolution des facteurs stresseurs, soit qui vont aboutir à une aggravation et puis l'apparition de troubles mentaux à proprement parler. Alors, quels sont les signes avant-coureurs? C'est principalement le fait d'avoir des modifications au niveau de l'humeur, le fait de devenir un petit peu irritable, d'humeur changeante, ou les choses qui habituellement nous font plaisir ne nous font plus plaisir. C'est quand on voit qu'on a beaucoup plus, qu'on ressent un peu plus le besoin de s'isoler, d'éviter les activités sociales. C'est le fait d'avoir des troubles du sommeil, c'est le fait de ressentir une fatigue morale qui est présente assez souvent. C'est le fait d'avoir aussi des troubles de l'appétit, c'est le fait aussi d'avoir des symptômes physiques. Alors ça, c'est très important. Hein, c'est très très souvent, les triades de douleurs, c'est soit les douleurs abdominales, soit les sensations de gêne thoracique avec l'impression d'avoir le souffle court, d'avoir un poids dans la poitrine, mais aussi les céphalées, les maux de tête principalement. Quand c'est la tête en entier et plutôt prédominant vers, vers l'arrière de la tête, donc à la racine de la nuque. Donc, il y a beaucoup de symptômes. Après, il faut savoir, justement, tous les symptômes que je viens de citer ne sont pas forcément obligatoirement expliqués que par le mental breakdown. Et il convient de faire toutes les explorations nécessaires, par exemple, devant une fatigue, pour éliminer une anémie, un problème de thyroïde, pour vraiment essayer d'éliminer les diagnostics organiques, ce qu'on appelle les diagnostics différentiels. Et à ce moment-là, on peut se poser la question justement de quelles sont les modalités de ce qui se passe dans la vie de la personne et qu'est-ce qui est en train de la pousser vers la faillite mentale, quoi, le nervous ou le mental breakdown.
Et quelles sont les éventuelles complications si jamais on ne prend pas en charge ce mental breakdown ou on ne prête pas attention aux signes avant-coureurs dont on vient de parler? Si on laisse les choses aller comme ça en freestyle, en quelque sorte.
Bien sûr, je vais vous répondre d'abord par une réponse qui est assez impressionnante. Je vais vous dire, mais c'est tous les troubles mentaux. Absolument tous. Ce sont ça les complications du nervous ou du mental breakdown. Ce n'est pas que la dépression, ce n'est pas que les troubles anxieux. On peut avoir également des décompensations dans le cadre d'une maladie psychotique comme la schizophrénie qui était jusque-là bien équilibrée avec un bon fonctionnement. On peut avoir l'apparition d'hallucinations, de délires. On peut avoir l'apparition de symptômes, de troubles bipolaires, notamment de surexcitation, etc. On peut vraiment avoir absolument tous les tableaux, mais ce qu'on voit le plus souvent dans la pratique de tous les jours et dans la vie de tous les jours, c'est aussi beaucoup de comportements addictifs, c'est-à-dire des consommations. Alors quand je parle d'addiction, c'est aussi bien la caféine que la nicotine, les psychostimulants qui, rappelons-le, aggravent un petit peu les symptômes, aggravent beaucoup, qu'un peu, les symptômes anxieux, les symptômes physiques dont je parlais, la gêne abdominale, thoracique, les céphalées, mais aussi d'autres substances qui sont utilisées plutôt à viser, entre guillemets, anxiolytiques ou facilitatrices du sommeil, comme le cannabis, l'alcool ou autre. Donc, c'est vraiment, cette dimension addiction est très très souvent retrouvée dans les personnes qui vont développer réellement un surmenage comme on le décrit, et ce d'autant plus que les troubles addictifs sont souvent des facteurs aggravants de l'évolution justement de l'éventuel trouble mental qui se déclare.
Et qu'est-ce qu'on devrait faire justement? Comment est-ce qu'on la traite? Est-ce qu'il faut un suivi? Est-ce qu'il y a un traitement? Comment ça se passe?
Écoutez, quand on parle de breakdown au sens non médical du terme, c'est-à-dire où la personne va pendant une semaine être en détresse, ne pas fonctionner, puis va revenir à la vie normale, entre guillemets, c'est une prise de conscience de beaucoup de choses. C'est ce que je vous disais quand je parlais de cerveau, c'est la prise de conscience d'abord de nos limites physiologiques. C'est important, nous n'avons pas des capacités d'adaptation qui sont infinies ou illimitées. Quand on parle de troubles mentaux, il y a toujours trois dimensions qu'on regarde. Il y a la dimension biologique, il y a la dimension psychologique et la dimension sociale ou environnementale. Bien évidemment que quelqu'un qui, par exemple, a une vulnérabilité d'ordre génétique à la maladie mentale parce qu'il a plusieurs personnes de sa famille proches qui ont été diagnostiquées, qui sont suivies, etc., bien sûr qu'on aura un peu plus de risques de développer des complications justement à ce mental breakdown, mais il convient aussi de comprendre que les personnes qui ont des capacités à s'adapter, qui sont faibles, qui sont psychorigides, ça c'est la dimension psychologique par exemple, les personnes qui ont un très faible entourage social, qui sont isolées sur le plan social, donc qui ont un faible ETH social, ça c'est la donnée environnementale, ces personnes-là vont développer plus de complications. Donc il faut prendre conscience de nos limites, il faut prendre conscience de notre mauvaise hygiène de vie, ça c'est très important parce que le fait d'intervenir, à titre d'exemple, le fait d'intervenir rien que sur le fait d'avoir une activité physique satisfaisante, régulière, et d'intervenir sur la qualité du sommeil, la routine du sommeil, et j'insiste, la routine du sommeil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se réveiller tous les jours à peu près à la même heure.
Ouais.
Chose qu'on fait rarement parce qu'il y a le week-end, il y a les grasses matinées, etc., mais sauf que le cerveau, il ne sait pas ce que c'est un week-end. C'est un rythme circadien de 24 heures qui doit se répéter. Et justement, pour le bon fonctionnement biologique déjà à l'origine de notre cerveau, on a des impératifs à respecter. Après, ce qu'il convient d'avoir en tête, c'est que nous avons des habitudes à changer. Nous avons aussi des réflexions quasi philosophiques à avoir à propos de nos propres vies pour donner du sens à tout ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ça peut être l'objet d'une psychothérapie. Mais voilà, assez souvent, ce sont vraiment des changements au niveau de la routine de vie, des changements au niveau de la manière de percevoir les choses, la manière de les concevoir qui peuvent aider justement à être plus fort vis-à-vis de la survenue de ce genre d'événement.
Docteur Atmal Lorabi, merci beaucoup de nous avoir éclairé à ce sujet aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir dans Matin Famille et on se dit à mardi prochain. Tchal.